connaissais pas la business de la boxe. C'est dans les négociations, il y avait certaines choses que je comprenais pas trop. Alors là, j'ai dit, écoute, ça va pas continuer comme ça. Tout de suite, dès le début, j'ai appelé un avocat qui se spécialisait dans des contrats de divertissement.
Okay.
Il venait de New York. Lui, il travaillait pour des boîtes telles Showtime et HBO. Il connaît vraiment la boxe très bien. J'ai eu une référence. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça passer du temps. Alors là, j'avais pas vraiment un bon retour, disons. Là. L'intérêt était pas là. J'ai dit, écoute, je veux l'engager pour une journée. Je veux passer 10 heures avec lui. C'est 800 $ de l'heure. Je dis, oui, pas de problème. J'ai pris un bon cahier de notes. Je me suis assis avec. On a déjeuné ensemble, lunché ensemble, puis souper ensemble.
Bienvenue au 17e épisode du podcast Hyper Croissance, présenté et produit par J7 Media. En gérant plus de 4 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media fut l'une des premières agences au monde à obtenir le badge Facebook Marketing Partner, remis aux agences partenaires premium de Facebook. Si vous désirez recevoir une analyse personnalisée d'une dizaine de pages qui couvrira vos tunnels de vente, vos campagnes numériques, vos créatifs publicitaires et plus d'une demi-douzaine d'autres points, rendez-vous au www.j7media.com et demandez votre analyse de performance Facebook gratuitement. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous construire un document complet qui vous permettra d'accélérer la croissance de votre entreprise. Aujourd'hui sur le podcast, on parle affaires, mais plus spécifiquement des affaires au niveau sportif avec nul autre que Camille Estéphane, président et fondateur de l'écurie de boxe Eye of the Tiger Management. Camille, qui a fondé l'écurie en 2008, compte à ce jour plus de 24 boxeurs dans son équipe et se positionne comme un leader au Québec en matière de boxe. On aborde donc dans le podcast d'aujourd'hui les trois principales sources de revenus qui peuvent découler d'un gala de boxe, l'acquisition de Interbox que Eye of the Tiger Management a fait en 2016 et l'évolution de la boxe au Québec au cours des 10 dernières années et également des anecdotes croustillantes que Camille nous partage par rapport à ses pugilistes. On discute aussi brièvement de l'autre carrière de Camille dans le monde des finances où il a pu devenir une figure emblématique chez Manuvie depuis plus de 15 ans maintenant. Sans plus attendre, ma discussion avec Camille Estéphane. Camille Estéphane, en plus de ta carrière à succès dans le monde des finances, tu as fondé en 2008 l'écurie de boxe Eye of the Tiger Management qui gère à ce jour les carrières de 24 boxeurs. Tu as également fait l'acquisition en 2016 de l'écurie Interbox qui était jusqu'à ce jour gérée par Jean Bédard, propriétaire du groupe Sport Scene et également des brasseries La Cage. En lien avec ton écurie, tu as lancé avec ta fille Punching Grace une plateforme en ligne qui permet de streamer les combats en direct de tes pugilistes. Camille Estéphane, merci beaucoup d'être sur le podcast Hyper Croissance aujourd'hui.
Plaisir, mon plaisir.
Camille, j'ai lu avant hier à peu près dans les nouvelles que d'ici la fin d'année 2019, ça s'annonce très chargé pour Eye of the Tiger Management. Je pense que tu vas annoncer bientôt près de 5 combats. Mais avant de rentrer dans les prochaines échéances de Eye of the Tiger Management, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment que cette belle histoire a commencé en 2008?
En fait, je voulais me remettre en forme. Moi, je viens d'une famille de boxeurs du Liban, passionné par la boxe. Puis dans mon travail de finance, ça m'a pris tout mon temps. Puis à un moment donné, je me disais, écoute, il faut que je me remette en forme. La santé, c'est important. Puis je me suis remis dans un club de boxe. Et, okay. Alors, je m'entraînais pendant une couple de mois. À un moment donné, j'étais un peu tanné de juste m'entraîner. Puis je voulais faire du sparring. Alors, c'est tout pas, mais avec un casque et des gants un peu plus padés, disons.
OK.
Alors là, mon coach, il me dit, Camille, écoute, on n'a pas de poids lourd dans le gym ici. Alors, mais moi, je voyais, il y avait un type qui était dans le coin. Il avait l'air d'être un peu gras. Je dis, lui, dans le coin, il oublie ça. Alors, ma fierté a été piquée de vif. Puis, je dis, non, amène-le dans la ring. Et là, j'ai rencontré Berman Stevern, il s'appelle. Berman était déjà professionnel avec Don King. Il y avait 13 combats, il y avait 13 KO. Puis, les coups de poing venaient très vite. Puis, après 2 rounds, j'ai dit, OK, on arrête. Puis on s'est lié d'un lien d'amitié. T'sais. Lui, okay. Il me regardait dans un complet, dans un soute. Il se disait que c'est bizarre. Lui, il sait boxer. Et moi, je lui disais, écoute, il a l'air un peu gras. Comment qu'il peut faire une carrière de professionnel à un si haut niveau? Ça a commencé comme ça. Il me demandait des questions. À fur et à mesure, les choses avançaient. Il avait besoin d'aide dans la gestion de sa carrière. Mais moi, j'étais pas impliqué dans la boxe du côté professionnel.
T'es dans le monde des finances, là.
Je suis dans le monde des finances. J'ai aucune idée comment la business de la boxe fonctionne. Je connais la boxe comme passion, comme sport. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Puis, on est en quelle année à peu près, juste pour qu'on puisse se situer?
Ça, c'était quelque part en 2007.
2007.
Oui. Alors, en 2008, Berman est venu me voir, me dit, Camille, regarde, je veux pas abuser de ton temps. Je me sens mal. Peux-tu être mon gérant? Et là, ton gérant, ça fait, il voulait que j'aille le rencontrer avec Don King, qui était son promoteur dans le temps. Il y avait un peu de misère avec Don King. Il avait besoin de représentation. Puis ça a commencé comme ça. J'ai été en Floride pour rencontrer Don King et Berman. Et Don King, en sachant qu'on s'en venait de Montréal, il s'est pas présenté. Pourtant, on avait un rendez-vous de séduiner.
Alors,
on
a juste pour être certain, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Don King, lui, c'est qu'est-ce qu'il faisait à peu près dans l'histoire pour la rencontre? C'était qui cette personne-là?
Don King, c'est le promoteur légendaire. C'était le promoteur de Berman. C'est le promoteur légendaire qui a été le promoteur de Muhammad Ali, Rumble in the Jungle,
c'est un gros
Mike Tyson. Tout ça. Oui, c'était quand même intriguant, mais j'étais très, très fâché parce qu'il ne s'est pas présenté. Alors, j'ai fait le voyage en Floride pour rien. La deuxième fois qu'on est allé, il m'a fait attendre quelques heures, deux, trois heures avant de nous rencontrer. Okay. Et il a fallu que je me fâche pour qu'il nous rencontre.
Okay.
Et puis, c'est comme ça que ça a parti la carrière de boxe.
Puis, OK, fait que là, juste pour être certain, tu es en Floride, tu te fâches. Ils se rencontrent. Comment que ça a eu lieu, ce meeting-là, finalement, où vous êtes rencontrés? Où? Qu'est-ce qui est ressorti
en fait,
de cette rencontre-là?
Pour faire une longue histoire courte, ouais. La dame, elle me dit, écoute, il est sur un téléphone en Russie, ça va prendre encore du temps. Et ça se peut que... J'ai dit, écoutez, madame, est-ce qu'il y a une autre porte de sortie de ce building-là? C'était le building qui appartenait à Don King. Elle m'a dit non. Je dis, OK, alors je l'attends, là, il sort pas sans moi. On va sortir ensemble. Alors, il a compris que j'étais pour être là. Puis, on l'a rencontré. Et je pense qu'il a respecté le fait que je voulais vraiment aider mon
tête. Ton but, là.
Oui. Puis, peu de temps après, Berman a accompli quelque chose qui est vraiment gros. Là. C'est le seul champion du monde poids lourd canadien dans l'histoire du Canada. Il a gagné le titre de la WBC, ce qui est le titre de Muhammad Ali, le titre de Mike Tyson. Et c'était mon premier boxeur.
Wow.
Oui.
Donc, il y a eu cette rencontre-là. Entre le moment que cette rencontre-là avec ce fameux promoteur-là arrive et, disons, que tu commences à gérer les combats précisément en mode un peu...
Gestion,
oui, littéralement.
Oui, j'étais gérant au début.
C'est quoi le laps de temps à peu près entre les premiers combats que tu deviens vraiment gérant, le championnat du monde qui se fait avec Berman? Parle-nous un peu du timing.
Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'étais simplement son gérant au début. Puis, okay. À un moment donné, je voyais qu'un gérant qui n'a pas la capacité d'organiser de combats...
Oui.
A pas vraiment beaucoup de pouvoir de négociation. Et j'ai décidé de partir à notre propre compagnie de promotion. Alors, j'étais rendu promoteur, mais pour des fins de négociation. Alors, j'ai dit à Don King et d'autres dans le temps, parce que j'ai eu quelques athlètes qui ont cogné sur la porte, qui m'ont dit, moi aussi, j'ai besoin d'aide. Les choses commençaient à aller mieux pour Berman. Puis, j'ai dit, écoute, on va faire notre propre gala. On a fait un gala au Théâtre Corona à Montréal. Puis, ça, c'était en... 2011. Alors, une fois qu'on a fait ce gars-là-ci, là, les promoteurs ont réalisé qu'on n'a pas vraiment besoin d'eux autres. Là, ça négociait mieux, puis c'était plus fair. Puis, je pense, Berman est devenu champion 2 ou 3 ans plus tard.
OK. T'étais déjà dans le volet un peu de promotion avant qu'il devienne champion du monde.
Oui.
Parce que c'est ça, j'imagine que là, t'arrives avec un rapport de force. Si t'organises tes combats à un certain point, là, c'est un petit peu plus facile.
Exactement. Parce qu'il disait, écoute, si tu prends pas ce que je t'offre, mais tu boxes pas.
OK.
Ah oui, OK, mais on va boxer quand même. C'est une no-show.
Merveilleux. Camille, on avait eu une discussion il y a quelques jours de ça. Je te demandais comment tu es rentré dans le business un peu de la boxe. Tu m'as raconté une histoire fascinante pour en apprendre un petit peu plus avec un avocat, je pense, que tu es allé voir à New York. Avant qu'on continue un peu dans les autres années après 2011-2012, peux-tu nous expliquer un peu cette histoire-là? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent vont trouver ça fascinant également.
Oui, c'était vraiment un point tournant parce que je connaissais pas la business de la boxe. Puis dans les négociations, il y avait certaines choses que je comprenais pas trop. Alors là, j'ai dit, écoute, ça va pas continuer comme ça. Tout de suite, dès le début, j'ai appelé un avocat qui se spécialiser dans des contrats de divertissement.
Okay.
Il venait de New York. Lui, il travaillait pour des boîtes telles Showtime et HBO. Il connaît vraiment la boxe très bien. J'ai eu une référence. Je l'ai appelé puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça passer du temps. Alors là, j'avais pas vraiment un bon retour, disons. Là. L'intérêt était pas là. Je dis, écoute, je veux l'engager pour une journée. Je veux passer 10 heures avec lui.
Tout apprendre.
C'est 800 $. Je dis, oui, pas de problème. J'ai pris un bon cahier de notes. Je me suis assis avec. On a déjeuné ensemble, lunché ensemble puis soupé ensemble. Et
10 heures de temps, 800 $, c'est le même, j'apprends la business.
C'est ça. Puis honnêtement, c'était le meilleur investissement que j'aurais pu faire pour bien connaître la business. Alors, c'était drôle parce que j'étais très nouveau dans le domaine.
Ouais.
C'est pas, il n'y a pas une université qui va te montrer comment être gérant ou promoteur de boxe. Les autres promoteurs ou gérants, ils pensaient peut-être que j'avais moins d'informations. Puis j'avais d'ailleurs la plupart du temps plus d'informations qu'eux autres. Alors, je pouvais me représenter mes athlètes très, très bien.
Mm-hmm.
Puis c'était un point tournant pour moi parce que ça a très bien été dès le début.
Parfait, parce que à un certain point, là, quand tu commences, tout ça, il y avait quand même des gros joueurs au Québec. Tu sais, il y avait des gros joueurs au Québec, il fallait que tu te positionnes puis que toi, tu sois capable de tirer un peu ton épingle du jeu. Groupe Yvon Michel, Interbox, que finalement, tu as fait l'acquisition en 2016. Ça devait, à mon avis, pas être facile de tirer son épingle du jeu parmi ces gros joueurs-là.
Oui, honnêtement, sans avoir, disons, ce réflexe-là d'aller chercher le pain chez le boulanger et non pas chez le laitier.
Ouais. Oh, oui.
Ça a été très, très payant. Puis sans ça, ça aurait été beaucoup plus difficile.
OK. Très intéressant ce que tu m'as dit. Maintenant, on a un boxeur, Berman, à peu près dans les années 2011, devient champion du monde. Mais là, en 2019, là, au moment qu'on enregistre le podcast, là, on est au mois de juillet, tu viens de faire une entrevue, tu dis que tu en as 24. Mm-hmm. Là, il y a dû avoir d'énormes changements que tu as été capable de faire avec Eye of the Tiger Management pour passer de 1 à 24 boxeurs. Peux-tu nous parler un peu de cette évolution-là entre les premiers succès que tu as avec tes gars-là et le fait que finalement, tu crées une vraie entreprise avec beaucoup de boxeurs qui devient une belle machine qui fait rayonner le Québec?
Oui, non seulement 24 boxeurs, mais des boxeurs très, très prometteurs. Je pense qu'on a les meilleurs jeunes boxeurs québécois. On a les meilleurs jeunes boxeurs à travers le monde, à travers la planète, que ce soit de la Russie, du Kazakhstan, l'Arménie. Il y a vraiment des boxeurs qui cognent sur nos portes un peu partout.
Et c'est eux qui cognent à vos portes?
Oui, mais regarde, on fait du recrutement, on se présente, on est là via Antonin Descari qui fait un excellent travail, mais en même temps, ils savent on est qui. On a une très bonne réputation de très bien encadrer nos boxeurs, de former vraiment une famille. La boxe, c'est un sport qui est très individuel. Tu sais, le boxeur, il est tout seul dans le ring. Quand t'es tout seul dans le ring, puis t'arrives tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand t'arrives bien encadré, bien entouré avec une équipe, avec des gens qui veillent à ton bien, ben t'as une motivation supplémentaire. Pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est vraiment la motivation et le focus.
Okay.
Puis quand on peut avoir les aspects qui font que la motivation et le focus sont dans la bonne place, on peut bouger des montagnes.
OK, intéressant. Puis, juste pour être certain, mettons, est-ce que ça a été un effet domino? Donc, disons que tu as un succès avec un boxeur, finalement, il y en a un autre qui cogne à ta porte, ou il y a eu vraiment des enjeux, des embûches un peu à grandir cette écurie-là?
Mais il faut se prouver, tu sais, il faut... les gens regardent ce que tu fais chaque jour. Ils regardent les résultats, ils regardent tes accomplissements. Évidemment, sans des victoires, sans des accomplissements, sans une bonne volonté, les gens te feront pas confiance. Alors, ça a pris, un CV qu'il a fallu bâtir. Mais ça s'est passé très vite. S'est passé très vite parce que c'était évident dès le début qu'on prenait très, très bien soin de notre monde.
Okay.
Alors, c'est ça la clé, le respect de chacun et chacune, le respect des athlètes du monde avec qui on travaille est la chose la plus importante. Quand on les respecte, ben on se respecte, puis ça devient très payant.
Intéressant. Je vais te poser des questions maintenant, peut-être un peu plus business reliées à l'industrie de la boxe en général, OK? Donc, dans l'industrie dans laquelle tu opères, j'aimerais que tu me parles un peu comment que ça se déroule une acquisition comme tu as fait en 2016 avec Interbox. Est-ce que c'est davantage les contrats des boxeurs que vous allez chercher? Est-ce que c'est le brand, le nom Interbox que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous êtes allé acheter et comment que ça se déroule un petit peu des transactions comme ça?
On avait une bonne relation avec le groupe Sportsène et Jean Bédard en tête, avec M. Jean Bédard, qui avait certains contrats, certains athlètes qu'on était très intéressés, incluant Yves Junior Ulysse, qui est présentement un des top québécois, puis top au monde. Alors, on voulait être impliqué dans la carrière du junior. On jasait de temps à autre. Il voyait, Jean, que le nom Interbox était très important pour lui.
Ouais.
Je pense que le nom Interbox était, c'était un peu son bébé. Il s'est tenu à cœur. Puis il voulait que quelqu'un puisse le ramener à un autre niveau. Pas parce qu'il n'était pas capable. Lui, il voulait se concentrer un peu plus
sur ses
restaurants. Puis c'était tout simplement un bon fait. Il avait confiance qu'on était pour faire de notre mieux pour le nom puis les athlètes. Alors, c'est ce qui est arrivé. C'est une des raisons principales pourquoi l'achat a été fait, pourquoi la transaction a été très, très facile à faire entre moi et Jean principalement. Moi, ce que je voulais acheter, c'est vraiment les contrats des athlètes, spécifiquement Junior Ulysse.
OK, fait que c'était vraiment les juniors, peut-être les potentiels en devenir que tu avais spoté, que tu voulais qu'ils viennent chez Eye of the Tiger.
Et jusqu'à présent, je pense qu'on s'est pas trompé. Junior Ulysse, il est invaincu. Il a gagné un combat de championnat de la WBA, ce qu'il appelle le Gold Title. Et il est maintenant bien positionné pour être dans un combat de championnat du monde très bientôt.
Très intéressant. En termes maintenant de ressources, peut-être plus humaines, ressources business, est-ce qu'il y a également des gens de Interbox que tu as fait le transfert et que tu les as amenés avec Eye of the Tiger Management autres que les pugilistes.
Il y a eu des structures, des processus, des choses qu'on peut... Tu sais, une librairie de combat qui est très, très importante aussi, et aussi de l'expertise. Okay. Alors oui, c'était important, puis c'était, ça faisait partie de la décision.
Ça fait partie de la décision. Donc, un transfert de contrat, un transfert également de ressources qui était, j'imagine, derrière le succès de Interbox. Question que je te pose maintenant, Camille, puis j'en vois trois des sources de revenus, il y en a peut-être d'autres, puis tu me corrigeras si je me trompe. Donc, j'ai l'impression que trois types de revenus reliés au milieu de la boxe, vente de billets, droits de télévision, eh bien, et maintenant, si ça ne fait pas tellement longtemps, le streaming. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peux-tu nous expliquer comment on peut bénéficier au maximum de ces trois sources de revenus-là quand on est un petit peu dans ta position? Comment on fait pour vendre un maximum de billets, avoir les meilleurs droits de télé et même éventuellement être capable de transiger des droits de streaming?
Ça, c'est des revenus principaux très importants. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais la chose la plus importante pour maximiser le revenu d'une compagnie de boxe, c'est avoir des athlètes que les gens veulent voir.
Ça, ça vend des billets plus facilement. Hein?
Et aussi les bons combats. Tu sais, des fois, tu peux connaître... Ce qu'ils disent dans la boxe, pour vouloir voir un combat, ça prend deux boxeurs que tu connais.
Okay.
Ça prend aussi un combat que tu sais pas qui va gagner.
Oh,
alors,
okay,
si tu fais les bons, alors des combats locaux d'habitude sont très très intéressants parce qu'on connaît les deux boxeurs. Puis si spécialement si c'est équilibré, puis on sait pas vraiment qui va gagner, ben ça devient très très intéressant. Alors c'est comme ça qu'on peut maximiser une des façons de maximiser les revenus. L'autre façon, c'est vraiment de compter des histoires parce que l'histoire d'un athlète dans la boxe, c'est vraiment une très belle histoire. D'habitude, on revient de loin, on veut une chance dans la vie.
Des hauts, des bas.
C'est un sport ultra difficile. C'est le sport le plus exigeant physiquement, mentalement. Et ces histoires-là sont vraiment, vraiment fascinantes. Alors, si les gens peuvent adopter, je vous donne un exemple.
Vas-y.
On vient de signer un boxeur qui s'appelle Lexen Mathieu de la ville de Québec.
OK.
Lexen, il y a seulement 4 combats. Il va disputer son 5e bientôt qu'on va annoncer. Il y a énormément, énormément de gens qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans son prochain combat, dans son prochain chapitre, disons, de sa vie.
OK.
Alors, c'est ça ce qui crée l'engouement, c'est connaître l'athlète. Tu sais, un gars comme Guy Lafleur, par exemple, avec les Canadiens de Montréal, quand il a commencé à jouer pour les Canadiens, il vient de où?
C'est quoi
qui l'a motivé à jouer le hockey? Tu sais, moi, j'ai rencontré Monsieur Lafleur, puis il me parlait des bottes de son père qu'il utilisait pour aller courir dans le bois, pour aller courir pendant 1h30 pour arriver à la patinoire où il pouvait patiner puis pratiquer son sport bien-aimé, le hockey. Oh. Alors, je dis, qu'est-ce qui t'a motivé, Guy, pour faire ça? Il m'a dit, mais je voulais jouer pour les Canadiens de Montréal.
Okay.
S'il y avait 11 ans, là, il faisait des dizaines de kilomètres en course dans des bottes de son père qui était trop grand pour lui. Ça, c'est des belles histoires. La boxe, on a plein comme ça.
Mais j'imagine.
Alors, c'est ce qui vend les billets.
Puis, je suis curieux dans un... Parce que ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Camille. Et là, moi, je me mets dans ta peau en tant qu'un peu, on va dire, gérant de boxeur qui s'occupe également de la promotion de ces gars-là. Si on veut bien raconter l'histoire de ces boxeurs-là, bien, beaucoup de ça va passer en 2019 par le social media. On s'entend entretenir un petit peu sa communauté, s'assurer que les gens qui nous suivent savent qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous accompagnez un peu vos boxeurs à travers ce social media, la présence en ligne pour s'assurer que peut-être les gens qui les suivent savent toutes les étapes qu'ils vont faire avant leur prochain combat?
Oui, c'est ultra important.
J'imagine.
Les médias, en général, c'est très, très, très important, spécialement avec les réseaux sociaux de nos jours. La proximité que les gens peuvent avoir d'un athlète ou bien d'une histoire, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est le fun pour nous parce que les jeunes sont très bien versés là-dedans. Alors, le coaching est facile à faire. Et notre plus grand conseil, c'est qu'ils soient eux-mêmes en tout temps.
Okay.
Alors, ne pas poser pour la caméra, mais juste être devant la caméra puis être soi-même. Alors, on veut pas compter des histoires qui sont pas vraies. On veut les choses authentiques. Et c'est ce qui va, et c'est ce qui fait notre force. Je pense à Eye of the Tiger, on est reconnu pour avoir une très belle présence dans les réseaux sociaux qui est honnête.
J'imagine que ça fait totalement du sens parce que si vous poussez ces jeunes boxeurs-là, parce que tu nous parlais de jeunes boxeurs tantôt, à entretenir leur communauté de médias sociaux, théoriquement, si tu fais ce travail-là en amont, quand le combat va arriver, ben tu l'as dit tantôt, les billets se vendent plus rapidement,
écoutez,
le streaming se vend mieux, les droits de télé également.
Absolument. Là, je vous donne un exemple pertinent avec Stephen Butler, un jeune homme qui est très, très talentueux, qui est maintenant dans le top 5 mondial dans plusieurs associations. Il a commencé à boxer avec nous, il avait 18 ans, il venait d'avoir 18 ans. Puis, il n'était pas vraiment reconnu. Il était connu comme un gars qui a du potentiel, mais pas plus que ça. Puis, à un moment donné, il a fait un combat au Centre Bell, il faisait la finale. Et ce qui était incroyable, on a fait les annonces partout, les médias normaux qu'on fait d'habitude, la télévision, la radio, les journaux. Mais une des choses qui a vendu le plus, c'est sa page Facebook, qui avait seulement 5000 personnes ou 6000 personnes dans le temps là-dessus. Il a vendu pour 45 000 $ de billets lui-même via sa page Facebook.
Est-ce qu'il avait peut-être payé pour ça? C'était juste organique.
C'était vraiment, vraiment organique. Oh puis il livrait les billets, il livrait lui-même, là, même, à main, là, via son frère, sa mère, son père et lui-même. Alors, c'est impressionnant de voir à quel point qu'il a pu, ce jeune-là, s'approprier ses fans, de devenir vraiment une personne proche de ses fans comme ça. Et on a appris, nous, de ça. Quand on a vu ça, on dit « Wow, hein, voilà, c'est la façon de faire. »
Il faut répliquer ça avec tous nos boxeurs. Ouais. Puis j'imagine que même, par association, ça a dû également améliorer peut-être les ventes de streaming ou les autres droits de télé. À un certain point, qu'il y a autant de gens qui le suivent. Peut-être qu'ils ne peuvent pas se déplacer, les gens, pour le combat, mais ils vont le suivre sur les autres plateformes.
C'est sûr. Pour le streaming, ce qu'on fait, c'est
parce que juste pour que les gens qui ils savent nous écoutent, excuse-moi de t'interrompre Camille, tu possèdes avec ta fille la plateforme de streaming Punching Grace là, qui va vraiment faire du streaming de combat en direct là.
Oui, Punching Grace est là pour chercher la boxe, pour chercher des histoires vraies, pour chercher de l'authenticité par rapport à ce sport-là. On se promène à travers la province, on a fait des galas à Rimouski, à Shawinigan, à Thetford Mines, à Québec, à Montréal. Alors, ce qui se passe, c'est que la personne qui a assisté, disons, au gala à Québec, puis entend dire qu'il y a un gala à Rimouski, ben c'est loin, il peut pas se représenter à Rimouski. Lui, il va avoir le loisir de pouvoir aller sur le streaming, le site Punching Grace, puis voir son boxeur préféré. Alors, le fait qu'on se déplace comme ça nous aide énormément à vendre du streaming. Aussi, une chose qui est très, très importante, c'est que, disons, une personne qui est aux États-Unis, qui aime beaucoup la boxe, qui veut voir peut-être un adversaire américain qui vient affronter un de nos gars, mais lui, tout d'un coup, il a l'accès facile à ce combat via le streaming. Alors, ça cherche des revenus additionnels non négligeables. Ce sont des revenus très importants qu'on va chercher un peu partout au monde, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis. Et c'est des revenus qu'on cherche pour la boxe québécoise. Alors, c'est très, très important de continuer puis pousser ça très fort.
Puis en plus, tu le disais, tu as des boxeurs présentement qui ne sont pas que québécois, qui viennent de d'autres endroits géographiques. Donc, j'imagine également que les gens au Québec qui suivent peut-être ce boxeur-là, mais qui, on le sait pas, peut-être m'amener va boxer en Europe ou ailleurs, il peut le suivre plus facilement. Même chose pour la famille de ce boxeur-là qui est peut-être en Russie pendant qu'il fait un combat au Québec.
Absolument.
On est capable de le suivre.
Écoute, j'ai une histoire de succès incroyable qui vient d'arriver, d'ailleurs. Le 15 juin, on a fait un gala à Shawinigan.
OK.
Avec Simon Keane, qui vient de Trois-Rivières. Oh, oui. C'est un jeune de la Mauricie qui boxait dans un combat important de revanche contre un type qui s'appelle Dylan Carmen. C'était sur TVA Sport.
OK.
Alors, TVA Sport, ils ont mis ça sur la télévision traditionnelle. Puis, en fait, ça a joué sur TVA Sport et TVA National aussi. Et on a eu des codes d'écoute incroyables. 750 000 personnes qui ont regardé. Le pic était de 750 000.
En comparaison, mettons, un autre combat que tu fais habituellement, si ça, 750, ça a été bon, ça serait quoi un combat moyen?
Mais je vais te donner un meilleur exemple.
Vas-y.
ESPN, qui est aux États-Unis, pendant la même soirée, là, il donnait le combat de Tyson Fury, champion du monde, qui fait sa première présence à Las Vegas contre un Allemand. Alors, en championnat du monde. Et évidemment, ESPN, je pense que c'est ESPN2 qui est dans 120 millions de résidences à travers les États-Unis.
C'est gros.
Ouais. Ils ont eu, eux, un pic là, de 800 000 personnes qui ont vu la soirée.
Oh, ouais.
Nous, au Québec, avec 8 millions de personnes, on a fait 750 000.
Oh,
alors, c'est tout un succès pour nous. Mais ce qui est ultra intéressant, je vous donne ces chiffres-là pour comparer Punching Grace maintenant, qui, deux semaines plus tard, à Thetford Mines, on a un jeune Kazakh qui s'appelle Sadreddin Akhmedov. Pour les amateurs de sport et de boxe, rappelez-vous de ce nom-là parce que ça va être une super vedette. Mais ce jeune-là, il boxait pendant cette soirée-là. Et on a, nous, via Punching Grace, fait un deal avec la télévision nationale du Kazakhstan qui s'appelle Khabar. K-H-A-B-A-R. Ça, pour eux, là, c'est le Radio-Canada.
Du Kazakhstan.
Du Québec, par exemple, bien du Canada, oui. Et lui, il y a eu 2,8 millions de personnes qui l'ont vu en direct. Alors, c'était le matin chez eux, je pense, vers 7h30 du matin. Ils ont eu, c'est des codes d'écoute incroyables.
Le kid, sur Punching Grace. Ah, mais non, avec le deal que vous aviez.
Okay. Via Punching Grace sur Khabar. Alors, il est vraiment rendu une vedette chez lui via notre site de streaming qui est parti ça ici, qui a vendu le deal à Khabar. Alors ça, c'est aussi des revenus très, très importants qu'on va chercher là-bas, mais aussi un crédit, disons, on peut appeler ça un crédit de potentiel. Parce que qui dit qu'un jour, on ne fera pas un gala au Kazakhstan?
Ben oui, 100%, parce que là, théoriquement, maintenant, vous savez que vous êtes capable de les rejoindre avec un deal que vous avez fait avec la télé locale.
Exactement.
Les opportunités sont immenses par la suite.
Exactement. Alors, ça ouvre vraiment la business à une toute nouvelle facette.
Puis je bifurque un peu, mais tant qu'à être là, de quelle manière vous y prenez autre que des galas que vous faites locales pour promouvoir cette plateforme-là? Parce que j'imagine qu'à un certain point, oui, vous organisez des galas de boxe, mais ça, c'est une business qu'on peut quasiment voir différente à part entière, continuellement pour aller chercher du nouveau monde qui s'abonne. Y a-t-il des manières que vous y prenez spécifiques qui pourraient intéresser notre audience aujourd'hui?
Ben, vous savez, la vision de ce site-là, c'est de raconter, de bien raconter les histoires.
Okay.
Si on regarde, si on veut copier, par exemple, un réseau qui est un des meilleurs au monde, c'est le réseau HBO.
Ouais.
Puis quand on parle avec les exécutifs, les tops de HBO, qu'est-ce que vous faites? Ben, ce qu'ils vous disent, c'est que nous, on est des raconteurs d'histoires.
Okay.
Et les gens veulent de bonnes histoires. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment raconter des histoires qui vont motiver le monde, qui vont leur faire bouger, les faire bouger vraiment dans les émotions et de toute manière de les rendre plus vivants, être plus contents de la vie, voir «
Ouais,
je suis inspiré par ce que je viens de voir ». C'est ce qu'on voudra faire avec Punching Grace. Alors que ce soit la boxe ou autre, on va voir comment on va le développer éventuellement.
Très intéressant, une entreprise familiale d'ailleurs. Je te pose une question, on a parlé de gala local tantôt, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis il y a eu un temps, il y a peut-être, bon là maintenant j'ai pas exactement les années, mais peut-être 5, 6 ans, 7 ans de ça, où est-ce que des Luchan Bouté, même des Jean-Pascal, pouvaient arriver faire des centres belles complets.
Mm-hmm.
De plus en plus, les combats de boxe, ils sont davantage dans les régions du Québec. Puis je pense que tu en discutais un petit peu tout à l'heure de ça. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait peut-être davantage revenir dans la métropole? Quelle est ton opinion là-dessus sur les combats plus locaux?
C'est tout simplement le fait qu'il y a beaucoup plus de boxe aujourd'hui au Québec qu'il y en avait dans le passé.
Okay.
Alors, on avait moins d'athlètes dans le passé. Alors, il fallait... T'sais, on n'avait pas besoin de faire plusieurs galas par année. On peut satisfaire les boxeurs avec 4, 5, 6 galas par année au gros max. Maintenant, on a juste nous autres, on a 24 athlètes. Alors,
ouais,
ces gens-là, ils doivent boxer. Alors, ça fait qu'on va devoir se promener. On peut pas cogner à la porte de l'amateur une fois par mois. D'ailleurs, qu'il achète un autre billet. T'sais, à un moment donné, il y a un budget à respecter. Alors, de là vient la nécessité de pouvoir se déplacer à travers la province. Mais cela est aussi voulu. Comme j'ai dit auparavant par rapport à Punching Grace, c'est que ces gens-là deviennent des clients potentiels pour Punching Grace parce qu'ils ont vu en personne un boxeur boxer. Puis là, ils s'attachent à cette personne, à son histoire. Ils veulent voir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Puis ça se passe sur Punching Grace.
Intéressant. Donc, vous êtes capable, à l'intérieur même d'un combat, d'avoir deux, voire trois sources de revenus qui vont pouvoir s'accumuler à travers le temps. Les gens payent pour le billet sur place. J'imagine qu'il doit y avoir un paquet de mentions pendant les combats que vous avez votre plateforme en ligne Punching Grace. Les gens peuvent s'abonner par la suite. Donc, on s'entend, c'est un bon leverage pour augmenter les revenus, optimiser les revenus pendant un combat, là, d'avoir une plateforme comme ça.
Absolument. Et ces revenus-là sont nécessaires pour faire avancer la carrière de boxeur. Tu sais, ça devient vraiment un partenariat entre nous et nos boxeurs. Ça devient aussi un surplus qu'on peut nous faire et donner à The Tiger avec l'association, avec Punching Grace, ou bien même d'autres. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand streaming service, c'est DAZN. Ça s'appelle DAZN.
Ouais.
Qui eux autres, ils remplacent un peu le budget qui a été investi pendant des années par HBO. Alors là, c'est DAZN qui... Alors, c'est juste une nouvelle façon de communiquer avec le monde via le web aujourd'hui.
Exactement. Ça, c'est très, très intéressant, Camille. Je suis fasciné par ça. Maintenant, j'ai des questions. Ça a l'air d'être très, très gros, la préparation avant un gala de boxe, OK? Donc, autant au niveau du boxeur, on s'entend, la préparation, elle a l'air militaire, on doit être en forme, on s'entraîne beaucoup. Des fois, il y a un échange un petit peu dans des pesées où est-ce qu'on essaie de montrer qu'on est le plus fort. Ça, on le voit un peu, cette préparation-là. Maintenant, j'aimerais que tu me parles, au niveau business maintenant, au niveau promotionnel, au niveau gestion, comment que ça se déroule de votre côté, la préparation à ces galas-là? Tu peux peut-être nous expliquer un peu le step by step.
Écoute, le début vraiment, c'est de s'assurer qu'on a un beau combat, une belle histoire.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que les gens vont avoir un intérêt à ce combat-là ou bien à l'athlète qui, lui, a commencé avec son premier combat, il est rendu à son 10e, c'est quoi sa progression, c'est quoi qui va se passer dans le futur, comment est-ce qu'on va pouvoir l'amener à des classements, après les classements, comment on va pouvoir l'amener à un combat de championnat du monde. Alors, dans un gala de boxe, t'as 7, 8, 9, 10 combats qui arrivent. Alors, il y a plusieurs histoires à raconter. Alors, il faut bâtir les meilleures histoires possibles, mettre ça en place, que ce soit un produit de qualité. Et là, on est choyé un peu à The Tiger parce qu'on a investi pendant des années pour nous amener à ce que notre produit et notre qualité soient le plus élevé possible. Puis aujourd'hui, je pense qu'on se compare aux meilleurs au monde. Ah oui. Et comme j'ai dit d'ailleurs, souvent, on cogne aux portes des championnats du monde et on va les défoncer avec plusieurs athlètes.
C'est ce que tu disais à la télé l'autre fois que je t'entends.
Exactement. Et je pense vraiment qu'on est rendu là. Maintenant, une fois qu'on a bâti un beau produit, ouais, il faut bien raconter l'histoire via les médias, réseaux sociaux, via les médias qu'on a connus pendant les décennies passées.
Combien de temps à peu près avant, mettons qu'on le sait qu'on a un combat?
Un bon 8 à 10 semaines.
8 à 10 semaines.
L'idéal, c'est d'annoncer le combat dans 8 semaines, c'est une bonne promotion.
Deux mois,
exactement. Okay. Mais ça, il faut tout mettre en place avant ces 2 mois-là. Alors, avant le gala, c'est un bon 12 semaines à peut-être un peu plus même, où on se dit, OK, la date devrait être ça, les combats devraient être ça. Mais en même temps, tu ne peux pas prédire à 2 ans plus tard parce que ça dépend de l'athlète, ça dépend du combat, ça dépend de la santé aussi. Hein. Des fois, il y a des blessures. Mais ça prend 2 mois pour bien promouvoir un événement. Là-dedans, j'ai un très, très bon staff qui sont passionnés, qui font vraiment partie de l'équipe, qui ont Eye of the Tiger tatoué sur le cœur.
Ouais.
Voilà.
Puis, je suis curieux maintenant, on dit 2 mois. J'imagine qu'à travers l'année au complète, vous êtes tout le temps en train, j'imagine, de négocier, de discuter pour essayer de trouver des combats possibles pour vos athlètes. Ça doit être quelque chose qui n'arrête jamais, on s'entend, on veut toujours trouver des combats. Maintenant, y a-tu des anecdotes que tu peux nous dire si c'est davantage intéressant, certaines dates, certains moments de l'année pour un combat? Est-ce qu'il y a peut-être une formule que vous avez été capable de trouver autre que juste le 8 semaines? Pour votre promotion d'événement que tu pourrais nous faire part.
Mais c'est sûr que tu dois avoir le building, le venue là qui
okay.
est prêt à t'accueillir.
C'est
des fois, il faut aussi éviter certaines situations. Par exemple, si les Canadiens de Montréal ils jouent dans le match numéro 7 dans la série éliminatoire, là, tu veux pas faire un combat de boxe une soirée au Québec. On s'entend.
On le fera pas en jour d'élection non plus là. Tu sais.
Exactement. Alors ça, c'est des affaires qu'il faut un peu négocier puis voir avant d'aller de l'avant. Mais quand on parle d'anecdotes, on parle de certains combats qui peuvent arriver vraiment à cause d'une chose qui a été dite par un athlète.
OK. Ça peut commencer
là,
avec ça.
C'est comme une petite paille de feu, là, puis boum, ça part. Ça devient un gros feu un peu partout. Le monde veut le voir, le combat.
Okay.
Alors, un Simon Keane qui dit... Simon, il est vraiment reconnu pour dire il n'y a pas de filtre.
Il n'y a pas de filtre.
Tu ne sais jamais avec qui va se battre dans 6 mois.
C'est pas sur quel pied tu vas danser.
Exactement.
Là.
Ouais. Alors, c'est ça. On fait toujours très attention sur ce que le fan veut voir. Et d'habitude, c'est des gens qui connaissent, comme j'ai dit auparavant. Alors, l'anecdote, c'est certains combats qui étaient supposés avoir, qui sont arrivés, que à une journée du combat, sont presque tombés à l'eau à cause d'une échauffourée entre les deux clans.
As-tu un exemple à nous donner?
Oui. Écoutez, Gary O'Sullivan, qui s'est battu contre David Lemieux, après la pesée, on a failli avoir le combat avant le combat. Là. Et alors, le combat se serait passé dans un hôtel, sans caméra, au lieu d'un T-Mobile.
Quand ça s'est passé, c'est en quelle année?
Gary O'Sullivan, c'est en 2018.
Ça fait pas longtemps de ça. Là. Okay.
C'est septembre passé.
Les deux dormaient dans la même hôtel?
Non, c'est qu'on a fait la conférence de presse.
La conférence était dans un hôtel.
La semaine, tu sais, on se croise souvent. On se croise souvent, les deux clans. Puis, tu sais, il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites par Gary O'Sullivan qui était un peu enflammé. Disons que ça peut être enflammé. Il manquait, moi, je trouve qu'il a manqué un peu d'étiquette. Puis, à un moment donné, tu le prends moins. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les boxeurs, là, la semaine du gala, ils font le poids. Si c'est pas des poids lourds, mais eux, ils doivent arriver à un certain poids.
Ben oui.
Alors, ils mangent moins, ils s'entraînent plus, ils sont déjà à fleur de peau, puis il y a beaucoup, beaucoup de pression qui vient avec le combat. Ils doivent gagner ce combat-là. Là,
ben c'est sûr.
Alors, ils sont à fleur de peau, puis t'ajoutes à ça le type qui est devant lui, qui le regarde de la mauvaise façon, puis t'as les coachs aux alentours, t'as les gérants, t'as tout le clan du boxeur qui est vraiment tellement investi. Alors, c'est souvent le cas. Alors, on essaie toujours d'éviter d'être dans les hôtels ou bien
le
les chambres. Ça m'est arrivé, à un moment donné, Berman, Stevern, il se battait contre Deontay Wilder. Puis, il y avait 2 chambres, une à côté de l'autre. Alors là, j'ai dit, ça arrivera pas. Le combat arrivera pas samedi soir, ça va arriver probablement jeudi soir. Alors, changer ça. Ils l'ont changé. Ça arrive.
Ils ont changé de chambre.
On a changé de chambre, oui.
OK. Ouais. Puis peut-être pour en revenir, je fais du pouce un peu, mais pour en revenir à David contre Sullivan, Fait que finalement, il s'est passé quoi? Ils se sont...
Ben, finalement, on quittait. Alors là, on a passé via un grand tunnel pour arriver au parking.
Ouais.
Et on attendait, nous, notre auto pour le chauffeur qui était un peu en retard à Vegas. Bon, alors là, il dit, je vais être là dans une dizaine de minutes. Alors, en attendant, c'était une petite porte. Là, le clan O'Sullivan, eux, leur auto était déjà dehors. Alors, eux, ils voulaient passer. Puis là, c'était très étroit. Il y avait beaucoup de monde. Là, j'ai dit, écoute, tu passeras pas maintenant, là, parce que si tu veux passer maintenant, ça risque de mal finir. Alors, attendez, restez où vous êtes. Alors, ils ont attendu 10, 15 minutes jusqu'à temps que l'auto est venue. Une chance, parce que sinon, ça aurait explosé.
Ah, ça aurait explosé les deux. OK. Ouais. Oh boy. Parce que c'est ça, là. C'est, on travaille avec des athlètes qui, ça fait peut-être 6 mois qu'ils se préparent pour ce combat-là. Ouais. Comme tu dis, ils sont à fleur de peau. Ils détestent l'autre. En tout cas, du moins, c'est ce qu'ils nous envoient comme message quand on les voit dans les pesées ou dans les conférences de après, ils n'ont pas l'air de s'aimer tant que ça. Ouais. J'imagine s'ils se croisent ou qu'ils sont dans une chambre l'un à côté de l'autre, là. Hey boy.
Mais ça arrive. Ils se croisent souvent, mais il s'agit juste vraiment de faire attention à ce que ce soit... Tu sais, c'est humain, là. Tu sais,
le gars,
veut le... Alors, un boxeur voit la chose, il veut le pain sur ma table.
Exact.
Tu sais, puis, veux pas, tu gagnes un combat, disons, le combat contre O'Sullivan, je pense que c'était sur HBO, le gagnant avait des chances de se battre contre Canelo Alvarez. On parle de bourse de plusieurs millions, tandis que le gagnant va faire, le perdant va aller à la case départ.
À la retraite, des fois même. Des fois, t'es sur ton dernier combat, puis c'est terminé.
C'est un combat de boxe, c'est un combat de boxe, c'est pas un jeu de boxe, c'est un combat de boxe. C'est vraiment spécial, oui.
Ah, c'est ça, qui est le meilleur gagnant. Fascinant, Camille, des histoires, je pense que des comme ça, tu pourrais nous en raconter énormément. C'est très, très intéressant de t'entendre. Je te pose maintenant peut-être des petites questions plus personnelles parce que les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais en plus d'être en charge de Eye of the Tiger Management, tu possèdes également 2 succursales Manuvie, dont celle à Dorval, qui est la première au Canada depuis 16 ans maintenant. Tu as énormément de succès dans le monde des finances. Maintenant, moi, je veux savoir comment tu t'y prends pour gérer 2 organisations de cette envergure-là. Comment tu fais pour être capable de tout manager ça en même temps?
Honnêtement, c'est presque la même business pour moi parce que c'est une question de gérer les gens. Et
bien sûr.
Gérer le risque. Alors que ce soit dans le portefeuille de placement qu'on gère, il s'agit de bien gérer le risque. C'est la même chose pour un combat de boxe. C'est la même chose pour une carrière d'un athlète. Mais en fin de compte, je gère des courtiers, je gère des boxeurs. C'est des gens qui...
Deux types de personnalités assez compétitives, on s'entend.
Très compétitives.
Dans les deux cas.
Absolument.
Hein?
Tu sais, dans le monde des finances, ben, tu te bats pour ton client, tu te bats pour aller chercher les meilleurs deals possibles, tu te bats pour aller chercher la bonne information, tu te bats pour bien placer tes choses. Puis dans un combat de boxe, ben, tu te bats pour
ta vie.
L'espace dans la règle. C'est vraiment ça. Alors, pour moi, je suis passionné. Je suis très, très passionné par ce que je fais et ça se ressemble énormément. Et oui, je dois être très discipliné. Pour répondre à tes questions très directement, j'ai un régime de ma journée dans lequel je suis bien content, bien confortable. Puis j'ai pu vraiment trouver l'équilibre pour chercher cette énergie-là pour bien performer toute la journée. Mais ça commence tôt, là.
Ça commence tôt. Puis je suis curieux, si tu me parles un petit peu de ton horaire du temps, est-ce que davantage de ton temps présentement est relié au niveau de Manuvie ou ça va davantage pour Eye of the Tiger Management?
Non, écoute, si je dois mettre un chiffre, je dirais c'est 80% chez Manuvie, 20% Eye of the Tiger. Mon emploi de temps est pas une question de ce que j'accomplis. Mon emploi de temps, c'est une question de ce qu'on planifie, de l'aide que j'ai. Tu sais, je fais pas ça tout seul. J'ai vraiment beaucoup de monde avec lesquels je me suis entouré. Je suis très, très chanceux d'avoir attiré les bonnes personnes. C'est vraiment plus des décisions que je prends que de faire les choses moi-même.
OK, intéressant. Donc, de s'entourer des bonnes personnes. Si on résume ça simplement, j'imagine qu'à travers le temps de tes 2 business, tu as trouvé, on va dire entre parenthèses, une formule pour bien recruter des gens. T'sais, autant pour Eye of the Tiger que Manuvie, parce que là, on parle de des organisations qui deviennent très, très grosses. Je pense que vous avez une centaine de personnes à Dorval. Je sais pas exactement combien Dorval, la succursale, Manuvie Dorval. Je sais pas exactement combien vous en avez à Saint-Léonard. Maintenant, tu as 24 boxeurs Eye of the Tiger. Tu dois plusieurs employés également. À un moment donné, il faut que tu sois capable de... On a parlé un petit peu tout à l'heure de empower ces gens-là pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Donc, ça doit être ça un peu ton rôle à la fin de la journée, là.
Oui, vraiment, mon rôle, c'est de les garder dans un focus, dans une motivation la plus élevée possible et leur donner aussi mon savoir-faire, mes expériences. Et moi-même, j'étais courtier. En commençant, j'ai bâti tout de zéro comme courtier dès le début. J'ai voulu me dupliquer pour pouvoir aider le plus de monde possible à travers le Québec. Dans le domaine de la boxe, ben, donner vraiment cette discipline-là. Parce que ce que j'ai pas raconté, c'est qu'au début de mon aventure dans la boxe, Berman, qui était ultra talentueux, il n'y avait pas les meilleures habitudes de travail, il n'y avait pas le meilleur processus, il n'y avait pas...
T'es pas autant discipliné que les autres.
Non, j'ai vu ça directement et en fait, une des choses qui a fait, qui a cru en moi, puis qui a eu confiance en moi, c'est que j'ai dit les vraies choses dès le début. Écoute, c'est vraiment... C'est le talent, c'est pas assez.
Mais non,
le talent, c'est pas assez. Ça fait juste te permettre de faire ce que tu fais. Là. Pour réussir, il va falloir que tu prennes les choses différemment. Puis il m'a écouté. Alors, c'est ce qui a fait qu'il s'est plié en main puis il est devenu champion du monde.
Wow.
Dans le monde de la finance, c'est vraiment, vraiment la même chose. Alors, pour moi, quand je me réveille le matin, je me réveille vers 5h30, je suis sur la route avec mon chien, je cours, je fais mon exercice. Je pense, j'ai vraiment ma paix dans le bois un peu. J'habite un peu en dehors de Montréal. Et après une heure, je suis chez moi, je commence à écrire mes courriels, je prends mon déjeuner, j'ai mon café. À 7h30, je lis un livre pendant une vingtaine de minutes. J'ai besoin vraiment de me ressourcer. J'aime ça, changer les idées. C'est comme
ça, c'est à chaque matin, c'est
à chaque matin.
Chaque matin de travail.
La même routine. La même routine. Même, tu sais quoi, dans les fins de semaine, j'ai de la misère à pouvoir me coucher jusqu'à 9h du matin. Ça arrive jamais. Là, je me réveille quand même tôt, puis je fais la même chose. Je ne vais pas au bureau là, samedi puis dimanche.
On relaxe un peu. Bah,
oui. C'est un... disons une horaire très très similaire d'un jour à l'autre. Oui, c'est très, sinon ça arrive pas, tu sais, nous ça j'arrive
non,
pas.
Non, le succès, on n'y arrive pas là. Je veux dire, si on donne pas les efforts, puis les gens pensent des fois, j'imagine, que le succès c'est un coup. Non, le succès c'est cette routine là que tu nous as mentionné continuellement pendant 20-30 ans de temps. Ben là, maintenant t'arrives avec des entreprises qui sont les plus performantes au Canada chez Manuvie, une écurie de boxe qui, si ma mémoire, je regardais un peu mes notes, là, puis vous êtes le top 1, top 2 au Québec dans les écuries de boxe, là, puis vous n'étiez pas
au
là
Québec,
il y a quelques
sûrement,
années.
Au Québec sûrement, puis si on revient de loin, mais mon but, c'est de dominer mondialement.
Wow.
On s'est mis dans cette position-là, maintenant on est proche d'aller la chercher.
Wow, félicitations là-dessus, Camille.
Merci.
Maintenant, il y a quelque chose que j'aime toujours entendre des entrepreneurs à succès puis qui peut également aider les gens qui nous écoutent aujourd'hui sur le podcast. Peux-tu nous dire quelle a été la plus grande erreur que tu as faite en affaires et qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là?
C'est une très bonne question. Les erreurs qu'on peut faire, en fait, pour moi personnellement, il faut toujours faire confiance à ton intuition.
OK.
T'es
un gars d'instinct.
Oui, l'instinct est très, très important. Alors, quand j'ai fait des erreurs, c'est que j'ai pas écouté mon instinct. Et tu sais, les décisions qu'on prend des fois, qu'on appelle des split-second decisions, c'est tu prends une décision, tu sais pas pourquoi tu l'as vraiment pris, mais c'est des bonnes décisions.
Ouais, ton gut feeling te dit qu'il faut que tu y ailles.
Alors, moi, mon conseil à moi-même et à tout le monde, c'est always trust your gut. C'est jamais, jamais mettre en doute ton instinct.
Peux-tu nous donner peut-être un exemple, Manik, que tu ne l'as pas fait? Pas obligé de rentrer nécessairement dans les détails, mais un exemple que tu n'as pas nécessairement fait confiance à ton instinct. Tu as peut-être fait confiance à quelqu'un externe que tu t'es dit, bon, finalement, puis que ça s'est retourné contre toi.
Ben, tu sais, moi, mon travail, c'est de recruter du monde, bien les former, bien les diriger, les mettre dans la bonne direction. Puis à un certain moment donné, j'ai recruté une personne que je me disais, écoute, je vois le potentiel, mais je ne sais pas pourquoi je n'y fais pas
confiance.
Puis j'aurais dû juste m'écouter. Alors,
puis ça s'est retourné contre toi.
Oui, oui. OK. Ouais.
Fait que des fois, c'est ça. Je pense que les gens peuvent nous dire ce qu'on veut entendre parce qu'on s'entend, il y a des personnes excessivement intelligentes qui... Tu dis, il dit exactement ce que tu veux entendre aujourd'hui, mais finalement, il ne va pas faire ce qu'il dit. C'est juste qu'il sait au plus profond de lui que c'est ça que tu veux qu'il dise aujourd'hui. Il te le dit, puis finalement, ton petit, à l'intérieur de toi-même, tu savais qu'il y avait un doute.
Ce qui arrive là, quand on fait ce type d'erreur-là, c'est qu'on a écouté d'autres personnes aussi.
Ouais,
on se fait, pas manipuler, mais on se fait influencer par d'autres visions de certaines personnes. Quand il y a trop de chefs dans la cuisine, là, ben,
la bouffe est
pas aussi bonne. Là. Alors, il faut prendre des décisions, il faut assumer les décisions, faire confiance à notre instinct.
100%. Tu l'as dit un peu dans ta routine matinale, t'es quelqu'un qui lit. qui lit des livres. Et ce que j'aime beaucoup poser aux gens qui viennent sur le podcast, poser comme question, est-ce que tu peux nous partager tes meilleures lectures, peut-être plus tes lectures à faire? Ça a été quoi les livres qui t'ont marqué?
Le meilleur livre que j'ai jamais lu personnellement, ça s'appelle « The Art of War ». The Art of War. Puis il y a aussi un livre qui s'appelle Le Prophète, qui a été écrit par. Alors, The Art of War, c'était écrit par Sun Tzu. Le Prophète, ça a été écrit par Khalil Gibran. C'est un Libanais d'origine qui a immigré aux États-Unis. C'est deux livres qui sont extrêmement profonds, qu'on peut relire 10, 15, 20, 30, 50 fois, puis apprendre des choses encore. Alors, ça arrive souvent que je relis des livres que j'ai lus, même que je me suis abonné à un site qui lit les livres pour toi. Tu peux écouter des livres.
Oui, c'est quoi le site?
Audible.
Audible, ben oui, bien entendu, j'ai le même. Oui,
ouais, alors, tu sais, j'ai les livres que j'ai en papier chez moi, puis que j'ai aussi et que je peux écouter sur Audible. Alors, ça, c'est deux livres qui m'ont vraiment, vraiment influencé.
Art of War, parle-nous un peu de ce livre-là. L'autre, Le Prophète, je le connais un peu. Art of War, je ne connaissais pas.
The Art of War parle de stratégies de guerre qui existaient dans le temps depuis 2000 années, 3000. Alors, des stratégies de guerre, mais qui peuvent s'appliquer de nos jours en affaires. Ça peut s'appliquer, en fait, dans la guerre interne qu'on peut avoir. Tu sais, pour connaître, il faut se connaître mieux que connaître les autres en premier lieu pour pouvoir faire de quoi qu'il y ait de l'allure. Alors, pour se connaître, des fois, c'est une bataille entre nous et nous-mêmes, entre nos pensées, ce qui devrait être puis ce qu'ils sont. Puis comprendre pourquoi ils le sont. Alors, c'est un livre qui est très, très profond. Et comme j'ai dit, on peut le relire plusieurs fois puis apprendre.
Puis on ne se tente pas. Ben, je vais vous faire une petite note là-dessus. Maintenant, Camille, avant de terminer l'entretien d'aujourd'hui, quels sont les plans de futur de Eye of the Tiger Management? Puis tant qu'à être là, de Placement Manuvie, Dorval et la succursale que tu as à Saint-Léonard?
Ben, ça a toujours été... pour moi, pour arriver au succès, tu sais, tu dois vraiment prendre... Alors, pour moi, que ce soit dans la boxe, c'est un boxeur à la fois.
Okay.
Prendre chaque boxeur, dire okay, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer chaque jour? Qu'est-ce qu'on doit faire pour amener ta carrière et ton talent au plus haut niveau que tu peux être?
Ouais.
Alors, un boxeur à la fois, une carrière à la fois. Avec Placement Manuvie, c'est un client à la fois, okay, un conseiller à la fois. Tu sais, chaque client... En fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas le loisir de contacter des gens que je connaissais qui avaient de l'argent. Je suis immigrant du Liban, j'ai immigré, j'ai étudié, je suis sorti de l'école. Il a fallu que j'appelle du monde à foi.
Juste pour être certain, pour les gens qui nous écoutent, on parle ici pour faire... quand tu commençais chez Manuvie, pour avoir des clients.
Comme courtier.
Exactement.
J'étais courtier nouveau, jeune. Alors, d'habitude, les gens contactent des réseaux, de la famille, des amis, des gens qu'ils connaissent. Ils commencent avec ça pour investir leur argent. Moi, j'avais pas ce loisir-là. Puis, il a fallu que je travaille très, très fort pour chaque client, pour leur confier. Tu sais, le client qui, ça fait 25 ans, qui est avec un courtier chez CIBC ou RBC ou quelque part, ben, pourquoi est-ce qu'il va devenir un client avec moi quand il me connaît pas? Alors, il fallait que je travaille très, très fort et lui chercher vraiment une plus-value que je peux prouver et démontrer dès le début pour qu'il prenne cette décision-là. Alors, j'ai toujours eu l'habitude, la bonne habitude de travailler, pas pour impressionner quelqu'un, mais pour vraiment chercher une plus-value, pour vraiment l'aider.
Vraiment l'aider.
S'il y a un élément là-dedans qui, si on peut parler de communication, c'est de lui vraiment montrer c'est quoi dans un langage qu'il va comprendre parce que les gens n'étaient pas des spécialistes en finance.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, si je prends cet exemple-là, je dis, c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir ma carrière, puis tout mon succès vient de ça, c'est que dans n'importe quelle relation, il faut chercher une plus-value.
100%.
Que ce soit envers les boxeurs, que ce soit envers les clients, que ce soit envers mes courtiers. Puis, c'est les habitudes les plus importantes. Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir? Qu'est-ce qu'on essaie de chercher dans la journée? Et moi, il a fallu que je m'améliore chaque jour.
Chaque jour.
Alors, je me réveille chaque matin, je me dis, écoute, est-ce que je peux m'améliorer encore aujourd'hui?
Mm-hmm.
Quand on peut plus, là, c'est le temps d'arrêter.
Ouais, c'est le temps d'arrêter. Donc, un combat à la fois,
un client à la fois,
un client à la fois. OK, merveilleux. Parce que là, les choses vont... Mais ça, c'est une bonne chose parce que les gens, des fois, ils ont des envies de grandeur très rapidement. Puis finalement, on va être gros trop vite. Puis ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de formule magique. C'est une chose à la fois. Et, mais si tu le fais d'une manière constante,
oui, absolument.
15 ans de temps,
absolument.
Ben, mais c'est
J'ai une preuve. J'ai une preuve pour toi. Ça, c'est un autre livre que j'ai lu, que j'ai recommandé au monde. Ça s'appelle « Le code du talent », « The Talent Code » en anglais. Ce livre-là a été conçu pour déterminer si le talent est né ou est-ce qu'il est bâti. Puis le livre prouve qu'il y a une façon de pouvoir bâtir notre talent puis en fait créer plus de talent aussi.
Bien sûr.
Créer du talent qui peut ne pas exister via des difficultés, alors via des expériences très constantes avec un très haut niveau de difficulté. Je vous donne un exemple rapide. C'est que le gars a fait comme une recherche sur toutes les meilleures performants dans tout domaine possible.
Tout
musique,
domaine possible.
Sport, business, rapport. Ouais. Puis, il est allé voir une école de tennis en Russie. Cette école-là avait développé 10 des 20 meilleurs joueurs au monde qui proviennent de la Russie. Mais non seulement de la Russie, mais de la même école. Quand il est arrivé sur place, il a vu une dame qui était dans la 70, un peu plus âgée, 75 peut-être, puis qu'elle coachait 20 joueuses de tennis qui jouaient au tennis sur 10 terrains de tennis, 100 balles. Alors là, le gars, il regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Il va la voir, il dit, madame, qu'est-ce que... Elle lui dit, écoute, là maintenant, là, quand cette personne-là fait son service, ou son backhand, ou son coup de droit, ou de gauche, ben, elle doit le faire parfaitement, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut influencer ce mouvement. Alors, je veux qu'elle fasse parfaitement bien, beaucoup de fois, mais c'est très difficile de le faire parfaitement à chaque fois. Alors, elle a le loisir de pratiquer très souvent, puis de pratiquer avec une grande difficulté.
Okay.
Alors, ces deux items-là, avec du coaching très soutenu, forment un talent merveilleux. Il a pris cet exemple-là, puis il l'a appliqué partout. Alors, nous, ce qu'on a fait avec nos courtiers, pour nos clients, c'est que quand on va chercher des gens qu'on connaît pas, puis qu'on doit vraiment, vraiment chercher une plus-value, ben, on travaille très, très, très fort. Et le pouvoir le démontrer à des gens qui sont pas versés dans le monde des finances. Ça peut être des gens qui ont eu beaucoup de succès dans leur carrière à développer des business, puis les vendre, puis là, ils sont à la retraite. Mais lui, il comprend pas vraiment nécessairement comment les actions dans un marché boursier fonctionnent ou bien comment la fiscalité fonctionne. C'est un homme d'affaires qui a travaillé dans quelque chose, qui a vendu, qui est maintenant retraité. Comment est-ce qu'on va pouvoir lui démontrer à la femme ou au monsieur qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Alors, il faut premièrement le faire, il faut bien l'expliquer, le communiquer et le démontrer. Même chose pour un gars qui a envoyé 5000 coups de poing dans sa vie. Comment le 5001e coup de poing va être encore meilleur? Alors, c'est les bonnes habitudes de travail, tout simplement.
Intéressant, mais je pense que ce livre-là, je vais l'acheter tantôt.
Il faut absolument.
Il a l'air intéressant, surtout avec l'histoire, l'anecdote que tu viens de me dire sur l'école de tennis. C'est fascinant. Camille et Stéphane, merci énormément d'avoir été sur le podcast Super Croissance aujourd'hui. Je crois que les gens qui nous écoutent vont avoir des très bonnes anecdotes sur plusieurs aspects, autant que ce soit les aspects de la boxe, la discipline, même un petit peu, on a parlé des courtiers, des marchés financiers. Donc, merci beaucoup. Puis avant de te laisser, comment que les gens peuvent rentrer en contact avec toi s'ils ont des questions, peut-être même s'ils sont intéressés à faire partie de cette équipe-là que tu coaches continuellement, autant au niveau peut-être de la boxe qu'au niveau des courtiers?
Ben regardez, ils peuvent sur Google me trouver très facilement, puis envoyer un courriel à mes équipes, que ce soit chez Placement Menuvie ou bien Eye the Tiger, et ça me fera grand plaisir.
Ok, merveilleux. Ben merci beaucoup, puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance. J'espère que le 17e épisode du podcast Hyper Croissance aura pu vous aider à mieux comprendre l'industrie de la boxe au Québec. De mon côté, j'ai énormément d'admiration pour le travail que Camille a pu faire tout au long de sa carrière. Peu de gens le savent, mais au-delà du succès que son écurie engendre année après année, Camille est également propriétaire de la succursale Manuvie Dorval, qui est la plus performante au Canada depuis plus de 15 ans maintenant en gestion de patrimoine. Avoir l'habileté de gérer d'une main de fer deux organisations de la sorte est uniquement possible si le bon mindset et la discipline sont au rendez-vous. J'en profite également pour vous inviter à nous donner un commentaire ou encore une note sur iTunes si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui ou encore les 16 précédents. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance.